tous. C'est un grand privilège pour moi d'être avec vous ce matin, donc avec Priscilla, mon épouse. Donc j'en connais quelques-uns parmi vous, et j'aimerais préciser tout de suite, non, je ne suis pas Élie. Donc beaucoup de gens me confondent avec mon frère, qui a quand même 7 ans de moins que moi, qui est déjà venu dans cette église et qui connaît beaucoup d'entre vous ici. Et la semaine dernière, on a eu le grand privilège d'être la semaine d'évangélisation atteinte dans Montreuil avec quelques-uns. Et donc, ça faisait 2 ans qu'avec mon épouse, quand on était aux États-Unis, donc les gens me connaissaient de moins en moins. Et quand j'arrivais, beaucoup disaient « Salut Élie !» Non, non, c'était pas Élie. Mais bon, on a cette même passion pour le Seigneur, et ça, c'est une grande grâce de Dieu de pouvoir partager ça entre frères, frères de sang. Donc, un long texte, hein, n'est-ce pas, Romains chapitre 12, mais un texte tellement puissant. Et j'aime bien rappeler, quand je vois des textes longs comme ça que je veux lire dans une église, que dans ma culture, donc dans beaucoup de cultures, la majorité des cultures, la Bible a été persécutée. Et la culture chinoise aussi, hein, dans le pays, en Chine, beaucoup. Encore aujourd'hui, certains endroits, la diffusion de la parole de Dieu est limitée. Donc, dans notre culture, il y a cette histoire qu'on aime raconter, qui est... un jour, le prédicateur, donc on avait ce temps où les Bibles étaient brûlées, où peu de gens avaient des Bibles chez eux, et ils se réunissaient entre chrétiens en cachette. Et un jour, le prédicateur se lève pour lire la Bible et pour faire son message. Donc il lit la Bible et commence son message. Et là, quelqu'un dit : S'il vous plaît, pasteur, s'il vous plaît, lisez-nous la Bible juste. Lisez-nous la Bible. Vous avez tellement la soif de la parole de Dieu. Le pasteur a juste lu pendant 1 heure. La parole de Dieu. Et nous, aujourd'hui, on a ce grand privilège immense de l'avoir au quotidien, tous les jours. On peut tout simplement la méditer. Et une des histoires aussi qui m'a énormément encouragé, bah, c'était justement une histoire en Chine où un jour, je lisais un livre de méditation comme ça. Et là, je vois donc la Chine qui était connue pour être un pays où justement, il y a eu cette grande persécution. Et moi, j'avais plus trop d'espoir quand j'entendais les histoires. Et là, un jour, je lis 10 000 personnes se convertissent par jour en Chine. Donc, je passe. Quoi ? Là, je reprends, c'est vrai. Alors au début, je croyais pas, quoi. Je me suis dit, ils sont trompés, etc. Et après, quand j'ai appris que le Seigneur effectivement faisait une œuvre merveilleuse, ça m'a vraiment encouragé de voir combien la parole de Dieu a une puissance de diffusion et rien ne peut l'arrêter. Amen. Quand le Seigneur se met en action, rien ne peut l'arrêter. Donc Romains chapitre 12, un texte formidable que l'apôtre Paul a écrit donc. Aux frères et sœurs de l'église de Rome, qui avaient donc des personnes d'origine judaïque, donc qui s'étaient converties, et des personnes d'origine païenne, qui s'étaient converties, donc un mixte de populations dans cette église, que l'apôtre Paul n'a pas pu visiter, il a essayé de les visiter régulièrement, il n'a jamais pu, et donc l'église se développant, il s'est dit, je vais écrire cette lettre qui va poser les bases, les fondements de la foi chrétienne. Les fondements de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous et de tout ce qu'on a reçu. Et donc il aborde des thèmes merveilleux comme la délivrance du péché, l'adoption en Jésus-Christ, l'arrivée du Saint-Esprit dans chaque croyant, la fin de la condamnation, le peuple païen qui est accepté dans la famille de Dieu. Plein de belles choses comme ça qui sont proclamées par l'apôtre Paul. Romains chapitre 1 à chapitre 11, des belles proclamations sur tout ce que le Seigneur a fait et de ce fait ce que nous sommes devenus en lui. Et après avoir posé toutes ces belles pierres, tous ces fondements, il dit donc, je vous invite donc, Romains chapitre 12 verset 1, je vous invite, je vous exhorte donc, ce petit mot donc, qui finalement est très important parce qu'il se base sur tous les chapitres précédents, à cause de tout ce que je vous ai dit, à cause de toutes ces bénédictions, à cause de toute l'œuvre de Dieu, offrez-vous en sacrifice. Il n'est pas arrivé en disant vous devez tous vous offrir en sacrifice. Il a d'abord rappelé tout ce que le Seigneur a fait. Et une fois qu'on considère toute cette beauté de l'œuvre du Seigneur, alors on répond, oui Seigneur, je me donne. Lorsque Jésus, en Matthieu chapitre 16, dit celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même, et les 15 chapitres où Jésus-Christ a montré qui il était, sa vie, ses bénédictions, comment il guérissait, comment il ressuscitait. Et nous aussi dans notre vie, le Seigneur nous appelle à offrir nos vies en sacrifice. Mais avant tout, l'apôtre Paul nous demande de nous rappeler ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Et c'est ça, c'est cette grâce qui va nous pousser à aller de l'avant. Et justement, pour rendre assez concret cela, j'aimerais qu'on puisse partager, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse se rappeler de quelque chose qui, dans notre vie, a bouleversé un peu notre façon de voir les choses, notre façon de considérer la vie chrétienne. J'aimerais qu'on puisse se rappeler chacun une compassion de Dieu, une grâce de Dieu. Quelque chose qui, dans votre vie, vous avez reçu de Dieu et qui, derrière, a changé un peu la façon dont vous avez vécu votre vie chrétienne. Et pour le faire très très concret, je vous invite simplement à vous tourner avec votre voisin, vers votre voisin, donc un ou deux. Si vous ne vous connaissez pas déjà, ben, présentez-vous et partagez avec cette personne qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie comme compassion ou comme grâce, une ou deux choses, ça peut être au moment de votre conversion ou même après, et comment cela a orienté votre vie par la suite. Et je vais aller voir le pasteur aussi pour entendre de lui qu'est-ce qu'il y pense. Je vous laisse 3 minutes. Nous, on a été bénis. Est-ce que peut-être une ou deux personnes veulent partager quelque chose qu'ils ont partagé, qui leur a fait du bien et où ils ont vu le Seigneur agir avec puissance, en assez courtement évidemment, pour pas enlever tout mon temps de prédication. Oui. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et c'est vrai que voilà ce qu'on a vécu, ce que vous avez vécu, et d'autres choses comme ça, n'hésitez pas à vous rappeler. Le psalmiste dit : je publierai bien haut et haut fait. Ça veut dire qu'il raconte aux autres. N'hésitez pas à rappeler aux gens ce que le Seigneur fait dans votre vie et a fait. C'est des fondements aussi de la foi chrétienne, la louange et l'adoration, et se rappeler de comment le Seigneur nous transforme. On n'étudiera pas évidemment tout le texte, il est assez long. Je vous invite simplement à le découper en quelques parties. Donc, les bases du sacrifice, c'est ce qu'on vient de rappeler. La transformation intérieure comme nécessité du service, et le service de Jésus-Christ basé sur l'humilité. Donc on étudiera tout simplement jusqu'au verset 9. Et on voit que le Seigneur, avant de nous demander de donner, nous donne. Et ça, c'est quelque chose de très important dans la foi chrétienne. Quand le Seigneur vous appelle à donner, lui a déjà fait une marche vis-à-vis de nous. Et nous appelle aussi à partager avec les uns les autres. Mais avant de servir, pour pouvoir faire un bon sacrifice, il nous appelle au verset 2 à ne pas nous conformer au monde présent, mais très précisément à être transformé de l'intérieur. La disposition de cœur pour un bon service commence par une transformation nécessaire. Évidemment, le Seigneur le transforme par le Saint-Esprit lorsqu'il nous appelle à Jésus-Christ, mais c'est quelque chose de continu, n'est-ce pas ? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc c'est quelque chose de continu qui doit se laisser transformer jour après jour. Donc si on veut servir, le Seigneur nous appelle avant tout à être transformés de l'intérieur, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et il nous donne le premier élément de la transformation. Notre monde aujourd'hui, hein, sachez qu'on va être forgé de toute façon, quoi qu'il arrive, par notre monde extérieur. Et c'est pas les principes bibliques, hein, que le monde nous donne au quotidien, dans votre travail, dans vos études. C'est pour ça que le Seigneur nous encourage à être prudents par rapport à ça. Et la première étape de la transformation, il nous le dit dans le verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables d'être raisonnable pour avoir de la modération, chacun dans la mesure de foi que Dieu lui a départie. Moi, je lis dans la version seconde, très ancienne. Mais finalement, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire que l'humilité est la première marque du service. Quand on va entrer dans le ministère, dans le service du Seigneur, quand on veut servir son Dieu, quand on veut s'offrir à notre Dieu, soyons humbles. Pourquoi ? Verset 4, « Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. » Parfois, donc, en 1 Corinthiens chapitre 12, il nous précise, il va un peu plus dans le détail. C'est vrai que l'Église est comme un corps. Et il dit, la main ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi, ou l'œil à la main, je n'ai pas besoin de toi, ou tu n'as pas besoin de moi même. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est que ça répond non seulement à ceux qui sont trop orgueilleux, mais aussi à ceux qui se dévalorisent. Alors comment ? Ceux qui sont trop orgueilleux, eh bien, ce texte leur dit, attention, tu ne peux pas tout faire tout seul. Tu ne peux pas tout accomplir tout seul. Et pour ceux qui se dévalorisent, il leur dit, attention, sans toi, l'Église manque quelque chose. Il manque quelque chose à l'Église. Un jour, je me rappelle, j'avais acheté un canapé chez moi, et je devais le transporter avec un ami. Et donc, on le prend, et pour le transporter, heureusement, j'étais au rez-de-chaussée. C'était vraiment dur. Et on a galéré, on a vraiment galéré. Je me rappellerai vraiment la sueur qu'on a mis. On a essayé de le faire passer par la porte. C'était vraiment, vraiment galère de le transporter. Et je me dis, oh là là, c'est vraiment pas facile de transporter un canapé. Et là, dans notre voisinage, donc il y avait des chrétiens, et Priscilla avait vraiment à cœur de leur témoigner. Et un jour, il y a un gars qui dit, écoutez, là, moi, je dois récupérer un canapé du premier étage et l'amener au rez-de-chaussée. Et là, Priscilla, très bonne idée, elle dit, ben, Ruben peut t'aider. Alors, elle dit, ça va être un bon témoignage. Et là, moi, j'ai dit oui, mais cette fois-ci, j'ai pris ma leçon, j'ai appelé 5 autres copains. Allez, je peux aller à moitié. Et donc, on est arrivé à 5. Alors, heureusement qu'on est arrivé à 5 parce que il nous dit, et ensuite, quand vous aurez fini de descendre le canapé du premier au rez-de-chaussée, est-ce que vous pouvez ramener le canapé du rez-de-chaussée au premier ? Ah ! Et bien, heureusement qu'on était 6, hein, je peux vous dire. Et ce qui était formidable, c'est qu'on s'est mis à 4 pour transporter un canapé et on se relayait. On se relayait. J'ai pu apprendre que, un, je peux pas transporter un canapé tout seul ou même à 2. Mais par contre, à plusieurs, on a vraiment pu faire ça tranquillement, sans problème, presque sans fatigue. Et ça m'a vraiment, c'était une bonne image pour moi de voir la puissance de l'unité dans le même travail. Et je pense que l'Église est comme ça aussi. On ne peut pas s'en sortir tout seul. On est appelé à servir avec les frères et sœurs. Et inversement, l'Église a besoin de vous. L'Église a besoin de chacun d'entre nous. Certains d'entre nous peuvent, et ce monde aussi, aime écraser les gens. Soit il aime élever les gens jusqu'à leur chute, soit il aime écraser les gens afin que les gens restent tout simplement terrassés. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans notre église, dans nos églises. Chaque frère, chaque sœur devant notre Dieu a une valeur formidable. Et chaque frère, chaque sœur a reçu un don, a reçu des talents qu'il peut mettre au service de son église. Paul ici a posé les fondements de ce service, un sacrifice vivant, saint, agréable et qui plaise à Dieu. Une humilité pour servir les autres. Et une fois que tu as cet état d'esprit, alors vas-y, lance-toi pour le Seigneur. Il continue au verset 6. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, si c'est le diaconat, verset 7, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Donc c'est une présentation limitée de quelques ministères. Mais l'encouragement ici qu'il donne, c'est quel que soit ton service et ton ministère, fais-le avec sérieux. Fais-le en accord avec ce que tu as connu de la foi. Fais-le en accord avec ce que tu comprends de la vie chrétienne, des sentiments chrétiens. Et on aime beaucoup dans 1 Corinthiens chapitre 12 à 14, où il présente justement une liste de dons et de ministères. Puis il termine avec la présentation du ministère du don de prophétie, comparaison avec le don des langues. Au milieu de cette présentation, il a un fondement important qu'on connaît tous. C'est 1 Corinthiens chapitre 13 qui parle de l'amour. Il dit, quoi qu'il arrive, frères et sœurs, quel que soit ton service, quel que soit ton appel, quel que soit ton ministère, qu'il soit grand ou petit, eh bien, fais-le avec amour. C'est ça la chose la plus importante qui aura de la valeur devant Dieu. Le Seigneur nous appelle à nous rappeler de cette grâce et de ses bienfaits. Il nous appelle, à cause de cette grâce et ses bienfaits, à nous donner à lui. La façon de nous donner à lui, c'est d'être humble et humain. Donc, quelle que soit ta situation, beaucoup de personnes parfois diront, écoute, moi, je sais pas quel est mon don. Voilà, je vois Clément, lui, vraiment, il prêche bien. Je vois d'autres frères, là, ici, là, qui dirigent bien la louange, et d'autres personnes, etc., etc. On n'a pas besoin de se comparer. Le Seigneur, tout simplement, nous appelle à servir là où nous en sommes. Et j'aimerais dire que lorsque nous avons un ministère, lorsqu'on a à cœur de servir, eh bien allons-y. Servons, même si on ne sait pas encore dans quel domaine on est bon, où le Seigneur nous appelle. C'est un petit peu aussi ça le rôle des responsables, c'est de vous encourager dans vos dons et vos ministères lorsque vous vous engagez. Peut-être qu'il y a un domaine aujourd'hui où tu t'engages, eh bien, le rôle du responsable c'est aussi de continuer à t'encourager là-dedans. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit votre appel, commencez déjà à servir, même si vous ne savez pas où est votre don. Et une fois que le Seigneur commence à dessiner où est votre don, où est votre ministère, où est-ce que on sent qu'il y a, donc, comment on pourrait déterminer un don, donc c'est que non seulement c'est quelque chose qui vous plaît, ça veut dire que vous avez de la joie à le faire, hein. L'apôtre Paul, il dit, moi je ne peux pas m'empêcher de parler de l'évangile, c'est pas possible, quoi. J'ai un feu qui brûle en moi. Et il dit aussi, il porte du fruit. Donc, que l'Église et les autres puissent voir que nous portons du fruit. Donc, quelque chose qui te plaît, quelque chose où tu sembles porter du fruit, eh bien, l'apôtre Paul, ici, nous encourage à être sérieux, à continuer, à creuser. Donc, imaginons, c'est le service. Comment je peux toujours mieux servir les autres? Imaginons, c'est l'exhortation. Qu'est-ce que c'est d'être un bon exhortateur? Comment est-ce que je peux me parfaire dans cette œuvre que le Seigneur est en train de me donner? Quelles sont les personnes inspirantes? Donc toujours plus pousser mon service pour qu'il soit de plus grande qualité pour le Seigneur. Ça, c'est vraiment ce que le Seigneur nous encourage à faire, d'aller toujours plus loin dans notre service pour lui. Que ce soit dans un esprit de service, c'est lui qui fait le service. Que celui qui s'enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui le donne le fasse avec joie et avec liberté. Et ce que je vous propose tout simplement, vous connaissez cette histoire de 5 pains et 2 poissons. Moi, j'imagine un petit peu à chaque fois ce jeune garçon qui est là et qui part et qui dit « Maman, je vais écouter ce... » Donc c'est un remix, hein, c'est pas dans la Bible. Hein. Pas comme ça. « Je vais écouter ce grand prédicateur, là, cet homme de Dieu très connu. Hey, mon enfant, tu sais que ça va être long, hein, donc je vais te donner un peu à manger. » Ah d'accord, ok, tac. Il part, il y va. L'homme de Dieu qui parle effectivement très longtemps, qui enseigne et tout. Et là, après, il y a les disciples qui arrivent. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les disciples viennent nous voir? Bonjour, excusez-moi, vous avez un peu à manger? En fait, ils sont en train de récolter à manger parce que c'est ce que Jésus a dit. Donnez-leur, vous l'avez à manger. Donc, ils ont cherché comment on va nourrir toute cette foule. Et donc, le petit garçon qui se dit, bon, bah, écoute, moi, qu'est-ce que je peux faire? Là, il y a 5000 personnes, qu'est-ce que je peux faire avec mes 5 pains et 2 poissons? Bon, allez, on sait jamais. Je lui donne ce que j'ai, mon petit 5 pains, mon petit 5 pains et 2 poissons. Heureusement, il était le seul à avoir à manger dans toute cette foule. Le Seigneur a pris ses 5 pains et ses 2 poissons. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il a nourri toute la foule, 5000 hommes plus les femmes et les enfants, et il restait encore 12 paniers après. Je peux vous dire, je pense que ce garçon, après, il s'est dit « Waouh, Jésus, lui, quand je lui donne 5 pains et 2 poissons, je vois ce qu'il peut faire. » Mais qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Peut-être que par rapport aux besoins que tu vois autour de toi, tu te dis « Mais moi, j'ai rien du tout, moi, je... » Comment est-ce que je peux servir avec ce que je suis, avec ce que j'ai, etc. Et à qui je suis rien. C'est vrai que sans Dieu, on n'est rien. Mais Dieu te dit, donne-moi tes 5 pains et tes 2 poissons. Vas-y, offre-les. Et tu verras comment je vais les multiplier. Non pas pour ta gloire, mais pour le bien des autres. Et toi, là-dedans, tu seras joyeux. Parce que je pense que ce petit garçon, peut-être au début, il s'est dit, attends, c'est mon repas. Jésus, il n'est pas cool quand même. Il va faire manger mon repas. Et après, il a vu que, en fait, non seulement... il a pu bénir tous les autres, il en avait pour lui, et il y avait encore du reste. Ce que je vous propose pour terminer, c'est tout simplement que partagez avec votre voisin de tout à l'heure un domaine où vous sentez que Dieu vous appelle à vous donner entièrement à lui. Rappelez-vous des grâces qu'il vous a données. Quand il vous appelle à vous offrir, ce n'est pas pour vous contraindre. C'est parce qu'il sait que c'est le meilleur pour vous et le meilleur pour ceux qui vous entourent. Donc partagez avec votre voisin. Et pourquoi je dis aussi partagez avec votre voisin? Parce qu'en fait, on va pouvoir prier les uns pour les autres. Et c'est tellement crucial de se soutenir mutuellement. Je ne peux pas avancer sans que mes frères et sœurs ne prient pour moi. Paul le dit aussi dans Romains. À la fin, il dit « Je vous en supplie, priez pour moi, intercédez pour moi. » Parce qu'il sait la puissance de la prière que les frères et sœurs peuvent avoir pour chacun d'entre nous. Donc reprenons ce temps de partage. Trouvez un domaine où vous sentez que le Seigneur vous appelle, suite à ce texte que vous avez lu, à grandir et à vous donner à 100% pour lui, et demandez à la personne à côté de vous de prier pour elle, de prier pour vous, et vous ferez la même chose pour lui. Et ensuite, je laisserai Florence reprendre la parole. Merci. Notre Dieu, pour cette grâce immense de te connaître, de t'appartenir. Toi, notre roi, notre Seigneur, tu es celui qui nous a tout accordé, toutes ces bénédictions multiples, tu as rempli nos vies. Et je te loue pour chaque frère, chaque sœur ici présent. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, éternel roi, qu'ils comprennent tout simplement qu'il est simple de venir à toi et de se donner entièrement à celui qui veut les sauver. Je te prie pour chaque frère, chaque sœur ici présent qui veut aller plus loin avec toi, que tu leur donnes cette opportunité. Et je te prie pour le responsable de cette église qui soit disposé à servir ton nom et à accompagner et à porter ceux qui veulent se donner à toi. Béni sois-tu notre roi, notre Seigneur et notre Maître, que toute la gloire te revienne, que ton Esprit Saint encore nous aide à accomplir jusqu'au bout la tâche que tu nous confies. En ton nom. Amen.